J'appelle tout de suite Dorothea Frontzman Cécile.
Bonjour. Voilà, je trouve que ma première tâche dans cet exposé sur la littérature sur les punks ou la culture punk en France devrait être de développer ou proposer une définition de la punkitude ou la qualité d'être punk en tant que discours qui définit ce qui est ou n'est pas punk ou qui essaie de le faire. Je vais tout d'abord montrer les origines dans la presse du discours français sur la punkitude qui ont surgi pendant l'été de 1976. Ce n'est qu'en faisant cela que je peux vous faire remarquer la manière dont les romans de Chris Villa et Virginie Despentes adhèrent à ce discours, et en fait, c'est mon argument pour toute la littérature punk en général. Il nous importe de noter que les idées de ce qui est ou n'est pas punk sont transmises d'une manière discursive. Les personnes supposées savoir ce qui est punk les ont répétées, nous les avons absorbées et renforcées avec notre répétition. Mais comment parler d'un discours dans une scène qui refuse les dogmes, qui résiste les discours en général? La première idée, c'est de constater que le punk est certes un discours. Il y a des discours qui ne s'appuient pas sur l'approbation des gens puissants, ni sur la publicité, ni le gouvernement, ni les écoles. Selon Roland Barthes, les discours appelés ancratiques sont ceux qui s'appuient sur le pouvoir institutionnel et l'intimidation autoritaire pour disséminer et renforcer une doxa, c'est-à-dire toute loi, toute règle ou toute réclame publicitaire et discours ancratique. En revanche, les discours qui entraînent le brouillage du système, je cite Barthes là, et s'opposent au pouvoir institutionnel, mais pas toujours de manière déclarative et explicite, sont appelés discours acratiques. Les discours acratiques ne sont pas uniquement des slogans qui s'affichent explicitement contre le pouvoir. Ils peuvent se distinguer par les paradoxes, des absurdités et des figures offensives qui ne dominent pas le pouvoir, mais qui le contraint, qui le rend inquiet et mal à l'aise. Donc, le discours de la punkitude est un discours acratique et anti-autoritaire. Comme discours anti-autoritaire, le discours sur la punkitude ne s'appuie pas sur les avis d'un seul chef ou d'un seul groupe, c'est un discours pluriel. Enfin, le discours pluriel de punkitude se distingue par une polyvalence qui brasse des contradictions de création et destruction de nos futurs et de changer le monde. En voici quelques exemples. Vous pouvez regarder la manière dont j'ai classifié les citations. Donc, on peut faire de la musique sans être expérimenté. Il n'y a pas qu'un seul style de punk. C'est une attitude et non pas un style. Il ne faut suivre aucun chef. C'est anti-autoritaire. Et c'est une sorte de rock'n'roll qui répond aux exigences de son temps et aux situations politiques et sociales de son époque. OK, donc voilà, les punks n'étaient pas les seules personnes à façonner le discours. En 1977, les journalistes parisiennes de l'époque discutaient du phénomène avec de différents degrés de sympathie et compréhension. Dans Le Matin, Hervé Muller s'y est montré plutôt compatissant. Et voici la citation. « C'est tout un esprit provocateur du rock qu'il s'agit de préserver. Une intellectualisation frénétique est venue en faire une idéologie fourre-tout. » Malgré le scepticisme de Muller, il est clair que ceux qui voulaient, je cite, « parler de punkitude et disserter avec le plus grand sérieux sur le sujet » démontrer un désir de cerner une idéologie, une philosophie ou une esthétique du punk, et que leurs écritures et énoncés s'unissaient autour d'un ensemble de tendances constituant un discours naissant de la punkitude qui serait renforcé avec le temps et la répétition. La presse française a vite constaté que le punk allait au-delà d'un style de rock pour comprendre un aspect visuel, poétique et esthétique. Dans le quotidien de Paris, en mai 77, Didier Saltron a contribué au discours bourgeonnant en remarquant que les musiciens et compositeurs punk utilisaient les moyens dérisoires et une effervescence pour ridiculiser la société et pour créer un rock de chômage la poésie de la composition industrielle, un sursaut désespéré et rageur qui, pour construire sa révolte, prise paradoxalement à ses sources historiques quand elles ne sont pas antiques. Cet article reconnaît le punk comme un désir de repenser et reconstruire les topoé du rock avec un plaisir expérimental et un mouvement esthétique post-industriel et post-moderne. Malheureusement, l'esthétique de la violence, quoiqu'elle est possible, les normes oppressives et la banalisation ou commercialisation du rock, a alarmé certains journalistes. Dans un article dans Le Matin, Richard Canavo et Anne Chaprol ont caractérisé les punks en tant que, je cite, « malsains, sauvages, tellement en marge qu'ils ne sont plus nulle part ». C'est une insulte à la société, à l'establishment, au genre humain aussi. C'est le grand brassage. On trouve tout, des portraits de Marx et de Hitler, et beaucoup de croix gammées. Il y a la coque, le shoot, la défense. Avec leurs cheveux ras, et avec leurs drogues, avec leurs insignes nazis, on a classé les punks à l'extrême droite. Cependant, une semaine plus tard, Le Matin a dû publier un article intitulé « Les punks s'expliquent », dans lequel les Stinky Toys et Love niaient, je cite, « niaient toute appartenance à une quelconque idéologie fasciste, raciste ou nazie ». Un auteur anonyme continue. « Nous allons essayer de faire bouger les gens, de les faire réagir. L'apathie est notre ennemi. Plutôt que de chercher à informer, les journalistes ont préféré écrire des articles de choc. La plupart des groupes punk rejettent l'usage des drogues. L'insigne nazi, porté dans la même chemise qu'un portrait de Marx, ne garde pas son sens initial. Nous ne sommes pas les héritiers du vieux monde. Marx, Hitler, Mao sont tous aussi ridicules les uns que les autres. Les punks ne sont pas racistes. C'est vous, les journalistes, qui préparez l'été de la haine en montant les gens contre nous. Cependant, à ceux qui proclamaient les punks anti-drogue et engagés s'opposent à d'autres assertions textuelles et d'autres chansons. Pour chaque groupe comme Metal Urbain, qui disait qu'il ne buvait que du lait et écrivait des chansons anti-gouvernementales, les autres groupes écrivaient des chansons moins politiques sur la vie urbaine, l'amour ou le mépris du rock des années 60, ou bien des ballades de la défense comme « Je bois et je suis le roi » de Gogol Premier, entre autres. La violence stylisée du pogo, ainsi que le sensationnalisme médiatique, ont nourri une idée du punk agressif, nihiliste, donc d'un discours pas forcément politique, mais sûrement acratique, polyvalent et anti-autoritaire. Les années 80 ont annoncé des mouvements plus engagés, comme l'anarcho-punk, le crust et l'hardcore et le straight edge, mais les premiers punks ne proposaient pas toujours des solutions nettes à la misère. C'est cette période du début du punk, plus nihiliste et moins strictement codifiée et politisée, qui est dépeinte dans le livre culte « Sans futur », publié par l'auteur Chris Villa en 1977. Villa écrit principalement de la science-fiction, mais aussi des romans policiers et d'horreur, des essais littéraires et culturels et des BD. Mais comme les musiciens punk, Villa n'a pas fait d'entraînement formel dans son mode d'expression artistique. Il est écrivain autodidacte. Ça, c'est assez punk, quand même. Son engagement avec la scène punk l'a inspiré de mettre l'esthétique punk en scène dans un roman policier vicieux, où une bande de punks enragés morde les gens pour transmettre la rage de la punkitude. Dans un entretien en septembre 2016, avec moi, Villa m'a expliqué « Je m'identifiais à la scène punk à l'époque et je connaissais certains groupes et certaines personnes dans les photos dans le roman. Le punk voulait détruire les conventions et les codes du rock. Moi, je voulais détruire les codes littéraires, avec mon écriture. » Villa désirait représenter l'esthétique du punk dans un livre aussi visuel que textuel, où ses personnages disputent et discutent de ce qui est punk et de ce qui n'est pas. Je voudrais avancer l'idée que la littérature punk n'est pas seulement, comme la critique Myriam Rivette a proposé, les textes qui se revendiquent comme punk ou qui peuvent se recouper autour de leur ressemblance et la manière dont ils adhèrent à un ensemble particulier d'assomptions culturelles, mais aussi les textes qui constituent un discours punk de manière diégétique, c'est-à-dire que les textes développent et renforcent les principes d'un discours à travers les discussions et les actes et les attitudes des personnages. Dans le roman punk, le désir de fixer un discours d'identité, esthétique ou philosophie, est représenté par le personnage du Coco Kid, le chroniqueur punk, qui écrit l'histoire de sa bande d'amis et quelques manifestes sur ce qui est punk et contre les baba cool aussi. Il conçoit une expression pour la vie maussade de subsister au minimum de confort possible. Il appelle ça « sous-vivre » par contraste à « survivre ». La groupie de leur cercle, c'est Sarah, une transsexuelle qui a un tatouage d'une croix camée rouge entre ses cuisses au lieu d'un sexe. La bande d'amis se perd dans le sexe, la drogue et le rock'n'roll, mangeant les chiens perdus et fraudant les transports. Il y a certains qui montent en groupe, et il y a aussi Dickie Lyon, le meurtrier des flics de la brigade des stupes, jusqu'à la fin du livre, où Dickie mord un flic qui le poursuit, mais le flic ne devient pas punk, il devient zombie chasseur de punk. Les contradictions inhérentes et l'aspect polyvalent du discours punk réverbèrent à travers le livre. La destruction créative des codes littéraires est apparente dans le format et la typographie du livre qui se dispense de la ponctuation standard pour créer des phrases parfois décousues et urgentes et qui utilise la typographie inventive et des photos des punks, des photos du groupe Les Sales Majestés des groupes aussi qui ne sont pas nommés et certains squatteurs qui sont dans les crédits du livre. Alors voilà, il utilise les photos, la ponctuation non standard et tout ça pour l'élément visuel. L'expérimentation typographique et grammatique peut être onomatopéique et évocatrice de sensations. Je cite à la page 14, « La confusion la plus totale, si vous pouvez voir à gauche, la confusion la plus totale est une confusion de minuscules et majuscules. Hein. Mais il y a aussi un peu d'écriture à la main, à la page 16. Punk, on dit punk. L'apparence graphique doublée du mot est une manière d'insister sur son importance et de cracher le mot punk avec une voix dérisoire. » Aux pages 34 jusqu'à 36, un employé salarié contemple sa sous-vie en attendant le métro. Je cite, « Il avait décidé de se tirer en vacances d'hiver à la montagne. Faut bien pouvoir goûter les délices de la vie. Consommer, c'est produire. Mais aujourd'hui, il en avait marre. Bon, 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 la musique des villes, le bruit des métros. Les yeux dans le flux cognement incessant de roues cargaison. Il en avait marre. Sa vie n'était plus qu'une énumération sans fin. Son corps a heurté la paroi du tunnel. Personne ne le ferait plus jamais chier. Le bon 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 masque le bruit d'une vie non résistante et non punk écrasée sous les roues du train et du train-train du quotidien consommateur. Cet épisode est l'un des aspects du roman qui construisent le punk comme une rébellion sociale contre ça, être écrasé ou résister. Hein. Donc c'est une rébellion contre la culture de travail et de consommation, contre la commercialisation du rock et contre les anciens codes symboliques et les normes bourgeoises. On voit le manifeste à la page 113 où le Coco Kid déclare que le baba cool arbore ordinairement une longue chevelure dégueulasse. Et il fume du hashish. Le baba cool est la haine des punks. Il y a aussi les épisodes où les hommes du groupe White Flash Spirit Club vainquent l'homophobie internalisée qu'ils ressentent à cause de leur attraction au castré Sarah, en rationalisant qu'elles refusent la sexualité traditionnelle et adoptent le code punk de brassage des anciens symboles dans un nouveau contexte avec son tatouage de croix gammée rouge, non noir, à la place d'un sexe. Je cite leur discussion, « Une croix gammée rouge, C'est punk, ça. Ça change tout. Alors, ces actes de rébellion sont basés dans une relation, quoique haineuse, quoique confuse, avec la société. Cependant, le récit du sang futur présente des punks non politiques et antisociaux à la quête de nouvelles sensations en guise de rébellion. Notons quelques exemples. Voici à la page 17. L'héroïne ne vous fera vivre longtemps, mais au moins, on la sent en soi. Dit qu'il est en train de vous faire le flash. Ici, l'auteur souligne la consonance entre les mots qui évoquent l'acte sentir, et le fort intérieur individuel du soi. La rébellion, ici, devient un geste individualiste et antisocial. L'écrivain Coco Kid est le seul personnage qui peut communiquer cette intériorité aux autres. À la page 93, il écrit « Hurler comme un loup, son besoin de sensations, la fureur animale s'emparant de lui, l'urgence de vivre, de s'éclater, plus jamais la galère de la sous-vie. » Le style essoufflé et furieux de l'écrivain, dans le texte, et aussi l'écrivain du roman, est un jaillissement de mots avec des pics d'énergie et sensations ça et là. Dans un échange entre l'enragé Dicky et une victime prospective, Dicky loue cette intériorité comme intégrale au punk. Je cite, « Vous êtes fasciste ? Non, pas fasciste, punk. C'est quoi punk ? La sensation. » En concert du groupe des punks, le White Flash Spirit Club est en, je cite, « déchaînement ». On dit « noise ». Ça ne se comprend pas, ça se vit. Les yeux avides et trépignants de rage. « No future ». Hurlement du métal. Tous ces « acting out » représentent une manière de combler l'absence de possibilités dans un monde post-industriel, sans possibilité pour vivre sans sous-vivre. Comme Sarah note en ouvrant la fermeture claire éclair de son jean pour dévoiler le non-sexe de la croix gammée rouge. Punk est creux, c'est une décoration de la vide. Curieusement, la ville où le récit se déroule, c'est aussi un peu creuse. Ce n'est jamais explicitement nommé, donc les punks, comme Canavo et Chaperot l'ont proposé, sont vraiment nulle part. Dans le roman Punk de Villa, la réaction, la sensation, le discours acratique contre le vide moral du vieux monde mourant, c'est punk. En guise de conclusion, la longueur de nos interventions a dû être raccourcie, donc je n'ai plus de temps pour vous parler beaucoup des romans de Virginie Despentes, mais je voulais faire une petite comparaison. Je vais rapidement souligner quelques contrastes entre les deux romans de Despentes que je voulais présenter. Ce sont Bye Bye Baby, Bye Bye Blondie et Teen Spirit. Donc, ce sont deux romans où il y a des protagonistes punk. Donc, je voudrais parler de comment ces livres et les protagonistes définissent le punk et la punkitude. Donc, il n'y a pas de vide géographique et culturel dans les romans de Despentes. Ses protagonistes, comme Bruno dans Teen Spirit et Gloria dans Bye Bye Blondie, parlent de leurs expériences dans la scène punk en France. Donc, c'est de la francité et la punkitude qu'ils parlent. Leur passé en tant que musiciens sont évoqués. Ils évoquent leurs expériences comme public au concert de groupes français, comme Béreux et Noir, OTH ou Kickback, ou leurs expériences comme squatteurs à Paris, à Lyon ou à Nancy. Dans les récits, Bruno et Gloria parlent à ses amis ou à eux-mêmes dans des monologues pour dénoncer le monde de travail conformiste et le culte des objets de consommation, une attitude critique qui reprend le discours contre-culturel français des années 70 et le discours punk. Bruno et Gloria ont choisi des travaux narratifs et discursifs. Ils s'expriment en écriture sans avoir été professionnellement formés, donc autodidacte, lui comme traducteur et journaliste, et elle comme scénariste qui écrit un récit d'adolescence pour le cinéma. Ils aggravent leur tourmente psychiatrique avec la bière et les drogues. Bruno est dépressif et agoraphobe. Gloria, traumatisée par l'abus de ses parents, a des épisodes dépressifs et des folies de rage. Néanmoins, contrairement aux junkies de sensations antisociales dans son futur, Bruno et Gloria renouent les liens sociaux. Bruno s'occupe de sa fille. Gloria retrouve un ancien amour. Ils luttent contre leur tendance autodestructrice et les tendances destructrices de la société pour rester vivant. La transformation la plus importante que le discours polyvalent punk a subie au fil des années se reflète dans toute littérature qu'on peut appeler punk. Le discours punk a dû reconnaître que le punk durerait avec le temps, et il a évolué de « no future » des années 70, de « in defense of our future » pendant les années 80, avec l'engagement politique anarchiste et la production autogérée dite « do-it-yourself », DIY. Les protagonistes des romans punk des années 80-90 et le nouveau millénaire doivent réconcilier les contradictions internes du discours de punkitude polyvalent entre création et destruction. Ils doivent bâtir un refuge, même si c'est dans les marges, et enfin essayer de survivre, non pas de sous-vivre, résister pour exister. Ces romans représentent le discours de la punkitude à deux différents moments de son évolution. Merci.